Alors, on est toujours dans notre série sur 1 Pierre, une communauté animée par l'espoir. Et j'ai encore réussi à monter sur la scène. Depuis peu, on a une vision sur laquelle on désire orienter notre vie d'église. Et pour rappel, je commence à peu près tous mes prêches avec cette vision. À l'écoute de Dieu, pour discerner sa volonté dans l'unité, nous voulons vivre et rayonner l'amour de Jésus-Christ autour de nous et au-delà. Et toutes les prédications de 1 Pierre, c'est en fait une manière de donner de l'épaisseur à cette vision. Mieux comprendre qui nous sommes en tant qu'Église, pour mieux comprendre aussi la mission que Dieu nous confie. Parce que Dieu a envoyé toute son Église en mission. Alors, il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, on a donné une définition de l'Église qui s'appuyait sur les premiers versets de l'épître Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2. On a parlé de l'identité de l'Église et on a dit que l'Église, c'est des personnes qui s'approchent de Christ pour y goûter. Et ce faisant, en s'approchant de Christ, elles s'approchent des autres personnes qui sont en train de s'approcher de Christ pour y goûter. L'Église, c'est un double rapprochement, un rapprochement de Christ et un rapprochement les uns des autres. Et puis la mission. Tous ensemble, ces personnes et Christ avec, elles forment une maison spirituelle qui accueille et qui rayonne la présence de Dieu autour d'elle. Ça, c'est la mission de l'Église. Et aujourd'hui, nous commençons à parler de notre mission en tant qu'Église. Rayonner l'amour de Christ autour de nous et au-delà. Mais aujourd'hui, pourtant, on ne va pas parler de projet. En fait, de manière assez intéressante, l'épître de Pierre, qui parle pourtant avec puissance de la mission de Dieu, ne fait jamais mention de projet. À la place des projets, Pierre, dans ce texte, il nous propose 3 mouvements. 3 mouvements pour rayonner l'amour de Christ autour de nous. Ces mouvements, ils sont une invitation à adopter le cœur de Christ pour ce monde, dans notre manière d'être et dans notre manière d'agir. Et si nous avons ce cœur de Christ, alors je pense que les projets pour rayonner son amour vont automatiquement suivre. Il faut que je vous prévienne, avant qu'on lise le passage d'aujourd'hui, ce texte qu'on va lire, on pourrait dire que c'est une secousse sismique majeure dans notre manière de gérer nos vies. Je pense que si on devait la situer sur l'échelle de Richter, on pourrait la situer à 9,2. C'est pour vous dire. Alors maintenant, je vais vous lire le texte. Il s'agit de 1 Pierre 2, le verset 11 jusqu'au verset 25. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. La secousse sismique, c'est pour maintenant. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas retrouvé de tromperie. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Avant de commencer à vous parler de ces trois mouvements pour adopter le cœur de Christ pour ce monde, j'aimerais vous donner un tout petit peu le contexte général dans lequel la mission de l'Église s'effectue. Et voyez que j'ai mis une image d'un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Alors, vous vous rappelez peut-être qu'on avait vu ça au mois de janvier, mais nous avons reçu de Dieu le salut comme la vie du futur. Une vie de réconciliation profonde entre toute la création et son Créateur. Et cette vie du futur, elle a été inaugurée par la résurrection de Christ. Maintenant, quel a été le véritable ministère de Christ sur terre? Je pense qu'une manière d'en parler, c'est de dire que parce qu'il désirait réconcilier toute une création qui était aliénée avec son Créateur, son ministère, il a consisté à s'opposer à l'auteur de cette aliénation, ainsi qu'à toutes ses œuvres. Et cet auteur, c'est Satan. Et que ça nous plaise ou pas, je ne crois pas qu'on puisse avoir une compréhension historique juste sans tenir compte du fait que derrière toute l'histoire, depuis la chute jusqu'à la seconde venue du Christ, il y a une force diabolique qui est à l'œuvre. Dans cette fenêtre de temps de la résurrection de Christ à sa seconde venue, certes, nous bénéficions déjà de la vie du futur, mais pas encore complètement. Car Satan, il est toujours actif. C'est une réalité. Et il cherche à détruire Christ et son œuvre de réconciliation qui s'accomplit à travers son Église. Et pour cette raison, nous qui appartenons à Christ, qui avons reçu sa vie, nous sommes l'objet d'une pression de la part d'un monde qui n'appartient pas encore complètement à Dieu. Alors bien sûr, il y a des moments de l'histoire où la pression, elle a été plus ou moins forte, plus ou moins mortelle pour les chrétiens. Mais au minimum, cette pression, elle s'exprime par le fait que, comme le dit le verset 11, nous sommes des étrangers et des résidents temporaires dans notre monde. Alors face à cette pression, il y a deux solutions. La première, c'est de se dire « moi j'en veux pas » et ne pas être trop sérieux par rapport à notre désir d'aimer Jésus et d'adopter son cœur pour ce monde. Et à la place, nous contenter d'une vie de foi un peu diluée et édulcorée. La deuxième solution, face à cette pression, elle se trouve dans le passage que nous avons lu aujourd'hui. Et si vous lisez votre Nouveau Testament, vous verrez qu'elle se trouve aussi dans beaucoup d'autres passages du Nouveau Testament. Il s'agit de résister à cette pression avec les armes que Christ a lui-même employées pour le faire. S'approcher de Christ, s'approcher les uns des autres pour former une maison spirituelle qui accueille et qui rayonne son amour, c'est adopter sa manière de faire et de penser face à la pression. Alors maintenant, imaginez que vous faites la plongée sous-marine. Et la pression qui s'exerce sur vous, elle est relative au degré de profondeur dans l'eau dans lequel vous êtes immergé. Et plus vous plongez profond, plus la pression devient forte et extrême. Et ces trois mouvements dont je vais vous parler aujourd'hui, ils correspondent à trois stades où la pression est différente. Dans le premier stade, la pression, vous êtes quelques mètres en dessous de l'eau. Et à ce stade-là, la pression, c'est que vous êtes considérés comme des étrangers, comme des résidents temporaires. Et à ce stade-là, rayonner l'amour de Christ, c'est deux choses. Rayonner l'amour de Christ en vous abstenant des désirs qui font la guerre à l'âme. Rayonner l'amour de Christ en ayant une bonne conduite. Alors quand Pierre nous dit « abstenez-vous des désirs qui font la guerre à l'âme », c'est pas très différent que ce qu'il disait dans le chapitre précédent « ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez quand vous étiez ignorant ». Et vu qu'on en a déjà pas mal parlé, je ne vais pas trop m'y attarder. Mais tous ces désirs, c'est des désirs légitimes ou illégitimes qui prennent la place de Dieu. Et ces désirs, ils prennent la place de Dieu parce qu'à la place de nous nourrir de Dieu, on se nourrit d'eux. Si nous nous laissons aller à ces désirs, alors ils prennent tellement de place dans nos vies qu'ils vont occulter la vie qui se trouve en Dieu. Et c'est à cause de ça qu'on ne va pas pouvoir rayonner l'amour de Dieu autour de nous. Mais si on y renonce, alors on va être capable d'avoir cette bonne conduite dont parle le verset 12, qui va s'exprimer, il y a certaines traductions qui disent, dans une belle manière d'agir, dans de bonnes œuvres. Vous vous rappelez peut-être aussi, mais au mois de janvier, en fait on avait vu que ce qui nous rend étrangers à notre monde, ce n'est pas tellement l'étiquette que les gens mettent sur nous, étrangers, mais c'est notre appartenance à Dieu. C'est ça qui nous rend étrangers. C'est notre appartenance à un Dieu d'amour. Et cette appartenance à ce Dieu d'amour, en même temps qu'elle nous rend différents, étrangers, elle nous pousse dans notre monde comme agents de l'amour, de l'espoir que nous avons reçu. Et cela s'exprime dans une belle manière d'agir. Nous sommes appelés de manière active à démontrer les actes de bonté et de compassion qui reflètent la bonté et la compassion de Dieu. Et Dieu, il nous a lui-même profondément transformés par sa bonté et sa compassion envers nous. Il nous a transformés en porteurs de sa vie, en gens capables d'une belle manière d'agir. parce que agent de son amour et de son espoir. Alors voilà, on en a fini avec le premier mouvement. Ayez une bonne conduite. Abstenez-vous des désirs qui font la guerre à l'âme, ayez une bonne conduite. Dans le deuxième mouvement, on plonge un peu plus en profondeur dans les implications de notre vie de foi. Dans ce deuxième mouvement, nous avons la pression s'exerce par le fait que dans notre vie de tous les jours, comme parlait Séverin, on a tous un certain nombre d'autorités humaines qui sont placées sur nos têtes. Et je pense qu'en Suisse, on est béni avec les autorités humaines qui sont placées sur nos têtes, mais c'est possible aussi que certains d'entre vous aient des patrons pas spécialement sympathiques. Certaines de ces autorités humaines placées au-dessus de nos têtes ne sont pas forcément toujours agréables. Dans cette situation où la pression est plus grande, rayonner l'amour de Christ se fait en se soumettant à toutes les institutions établies parmi les hommes. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à se soumettre? Pourquoi est-ce que Pierre enjoint en particulier ses lecteurs à se soumettre, alors que eux ont probablement pas mal d'autorités au-dessus de leur tête qui sont difficiles? Le texte, il nous dit « À cause du Seigneur, soumettez-vous ». Quand Jésus, Dieu le Fils, il est devenu résident temporaire de notre monde. C'est intéressant de voir qu'il ne s'est pas mis au-dessus des lois de son époque, au-dessus des institutions de son époque. Il a été un juif qui a pleinement vécu sa vie de juif du premier siècle dans une terre sous domination romaine. Il ne s'est pas du tout révolté contre les institutions politiques de son époque. Pourtant, le fruit d'un système injuste issu d'une colonisation. Et il ne s'est pas placé au-dessus des institutions religieuses de son époque, qui étaient pourtant gangrénées par pas mal de problèmes. Mais en homme absolument libre, le seul qui jouissait d'une liberté absolue, il n'a pas utilisé cette liberté pour refuser de se soumettre. Mais ceci dit, il ne s'est jamais laissé rattraper par un système abusif. Il a toujours remis en question. Sa soumission n'empêchait pas cela. Il a dénoncé l'injustice et en particulier, il a dénoncé la manière abusive des pharisiens de vouloir imposer leur religiosité aux autres. Il n'a jamais dit oui au mal. Il ne l'a jamais excusé, sous aucune forme. Christ, c'était un homme libre, un homme parfaitement libre. Ah, que j'aimerais avoir sa liberté. Et sa liberté, il la trouvait dans sa soumission à son Père. Cette juste manière de se mettre en relation avec son Père. Et nous, si nous nous soumettons à notre Père céleste, alors nous aussi, nous devenons des hommes et des femmes absolument libres ou véritablement libres. En fait, la liberté, elle ne se trouve pas en nous. Elle ne se trouve pas dans notre autonomie, notre indépendance, le respect de nos droits, l'assouvissement de nos désirs. La liberté, elle se trouve en Dieu. Quand nous le reconnaissons pour qui il est vraiment, quand nous nous mettons en relation avec lui, comme notre Dieu, comme notre Seigneur. La liberté, elle se trouve dans son amour qui nous libère de ce qui nous enferme. Et en effet, de manière ultime, ce qui nous enferme, ce n'est pas une quelconque forme d'autorité qui est placée sur nos têtes. Ce qui nous enferme vraiment, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de nous. c'est nos peurs, c'est notre sentiment, c'est notre esprit critique. C'est une mauvaise conception de qui on est, de qui le monde est, de qui Dieu est. C'est nos revendications, la liste pourrait s'allonger de tout ce qui peut nous enfermer. Pierre l'a bien compris. La liberté que nous trouvons en Dieu, elle est tellement forte qu'elle n'est pas menacée par une quelconque autorité au-dessus de nous, aussi injuste que cette autorité puisse être. Parce que la vraie liberté, c'est le don du Tout-Puissant, et que personne ne peut rien contre cette liberté-là que nous avons. Alors quand Pierre nous dit que nous devons nous soumettre à toute forme d'autorité humaine, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va parler de la vie de Dieu qui nous habite, de cette vie qui nous a rendus libres. Et c'est ça qui va rayonner l'amour de Christ autour de nous. Ceci dit, il y a des situations, il y en avait à l'époque où Pierre écrit cette lettre, et il y en a aussi aujourd'hui, où la désobéissance civile peut s'imposer. Par exemple, les premiers chrétiens ont toujours refusé d'adorer l'empereur, parce que leur allégeance à Dieu était première et que celle-ci les empêchait d'adorer l'empereur. Soumis donc, mais discernant toujours. Alors maintenant, on en arrive au troisième mouvement pour adopter ce cœur de Christ pour ce monde. Et c'est là que la pression d'un monde où Satan est toujours à l'œuvre, elle devient plus forte. C'est de la plongée sous-marine en très grande profondeur, dans des situations complètement extrêmes. Et à ce stade, nous ne sommes plus seulement des étrangers et des résidents temporaires, mais nous sommes des étrangers et des résidents temporaires rejetés et persécutés. Et à ce stade de pression extrême, rayonner l'amour de Christ, c'est endurer la souffrance injustement subie en y répondant par le bien. Le plus difficile, c'est pour maintenant. Le plus difficile, mais ce qui est aussi le cœur de la foi chrétienne. Dans ce passage que nous étudions aujourd'hui, Pierre y s'appuie sur ce que les esclaves vivent pour nous parler de ce que veut dire suivre Christ dans une situation de pression extrême. Alors c'est intéressant de voir qu'au temps où Pierre il a écrit, personne ne se serait jamais donné la peine de donner des instructions à des esclaves. Ils étaient tellement considérés comme des moins que rien qu'on ne s'y intéressait même pas pour leur donner des instructions. Mais non seulement Pierre leur donne des instructions dans sa lettre, c'est le premier groupe à qui il s'adresse, mais en plus, oui, il les cite en premier. Ils sont des exemples parce que c'est ceux-là, c'est les esclaves qui vivent au plus près ce que Christ a vécu quand il est venu sur la terre et quand il est devenu esclave pour pouvoir nous sauver. Donc c'est ceux qui sont le mieux à même de comprendre ce que Christ a vécu. De manière extrêmement offensive, moi je suis offensée quand je lis ce texte, de manière extrêmement offensive pour des personnes qui redoutent par-dessus tout la souffrance, Pierre, il nous enjoint à endurer la souffrance injuste en faisant le bien. Et en plus, il va même plus loin, il dit que c'est une grâce de Dieu de pouvoir le faire. Ça, c'est le message de Pierre. La secousse sismique, 9,2 sur l'échelle de Richter. Endurer la souffrance injuste en faisant le bien, c'est une grâce. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a eu une première version de Pierre. Dans les évangiles, on voit que Jésus annonce à Pierre qui va souffrir. Il annonça à tous ses disciples. Et quand Pierre entend que Jésus parle de sa crucifixion, il lui dit non, ça c'est pas possible, tu vas pas souffrir. Et je pense que nous aussi, on ressemble souvent à cette première version de Pierre. Des gens qui pensent que la souffrance n'a pas de place parmi nous. Mais dans la deuxième version de Pierre, celui qui a écrit la lettre que nous lisons, celui d'un homme qui a été profondément transformé par Christ. Dans cette deuxième version de Pierre, il nous présente une autre manière de répondre face à la souffrance. En fait, dans sa lettre, il nous dit qu'il y a deux manières de répondre au mal. Une manière, je pense qu'on peut la qualifier de plus ou moins instinctive, c'est « on me fait du mal, je réponds au mal par le mal ». Et pour se convaincre que c'est une manière assez naturelle de répondre au mal qui nous est fait, je pense que vous pouvez venir passer un après-midi chez moi avec mes trois enfants et vous serez assez convaincus que c'est quelque chose d'assez instinctif. L'autre manière de répondre au mal, c'est celle qu'il nous propose. C'est de répondre au mal en faisant le bien. Dans notre société à nous, accepter de souffrir injustement, c'est considéré comme du masochisme. Quelque chose de profondément abusif, malsain, destructeur. Et dans notre société, et il faut reconnaître que nous avons cette chance, nous avons la possibilité, bien plus que les esclaves à qui Pierre s'adresse, de dire non à une situation d'abus. Et quel bonheur que cette possibilité existe, un peu comme une troisième voie, de répondre, et qui nous évite de répondre au mal par le mal, mais qui nous permet de nous retirer de la situation. Mais cela n'empêche, dans le passage que je viens de vous lire, les esclaves nous montrent le chemin vers Christ. Alors, qui est Christ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur la souffrance injuste? Dans un monde déchu, il y a des circonstances où la pression du mal est telle qu'aimer, vouloir aimer, devient synonyme avec accepter de souffrir injustement. Juste faire des bonnes œuvres, comme on l'a vu dans le stade 1, ça ne suffit plus pour rayonner l'amour de Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ nous montre par sa mort. La crucifixion de Jésus, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça a été l'acte le plus atroce, le plus injuste que le monde ait jamais connu. C'était le seul individu qui méritait uniquement de la louange, uniquement de la reconnaissance. Il a été frappé, rejeté, tué. Mais sur la croix, il a prononcé ces mots. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et au travers des souffrances du Christ, nous avons été sauvés, nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons reçu sa vie. Mais ce n'est pas tout. Au travers des souffrances injustes qui se prolongent dans la vie de ceux qui suivent Christ, le monde lui-même peut être amené à Dieu. Souffrir injustement en restant libre de faire le bien, ça peut se faire que dans l'imitation du Christ, que dans une relation intime avec lui, dans une union avec lui, que si nous nous sommes approchés de lui pour goûter à quel point il est bon. Souffrir injustement en restant libre de faire le bien, ça parle avec puissance de cette vie de Dieu qui nous habite, cette vie de Dieu dont l'amour est infini. Les chrétiens à qui Pierre s'adresse, ils étaient rejetés et persécutés dans leur société. Leurs droits étaient bafoués parce qu'ils vivaient dans une société dont les structures étaient injustes. Pourtant, c'est intéressant de voir que ni Pierre, ni les autres auteurs du Nouveau Testament s'attaquent vraiment à ces structures. C'est pas leur objectif de transformer les structures de la société. En fait, leur préoccupation principale, ça semble toujours être la transformation du croyant, celui qui suit Christ, quelle que soit sa situation de pression extérieure. Alors, je pense que premièrement, ces auteurs qui ont écrit le Nouveau Testament, ils savent que cette transformation de la personne, c'est dans cette transformation de la personne que se trouve la vraie liberté. Mais aussi, deuxièmement, ils savent que Jésus leur a confié une mission. La mission de poursuivre son œuvre de réconciliation en rayonnant son amour autour d'eux et au-delà. Et ils sont appelés à cette mission de rayonner l'amour de Christ, y compris dans les situations de pression extrême. À l'exemple de Christ qui nous a aimés dans la pire situation d'injustice imaginable. Alors, comment est-ce qu'on peut transposer ça dans notre société où nous avons la chance d'avoir bien davantage de nos droits respectés? Est-ce que ça signifie qu'on doit arrêter de se battre pour toujours plus de justice et qu'on dit à Stop Pauvreté de ne pas venir chez nous la semaine prochaine? Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Nous avons une possibilité que les chrétiens à qui Pierre s'adresse n'avaient pas, celle de pouvoir lutter pour plus de justice. C'est une bénédiction, utilisons-la. Mais avec cette bénédiction, rappelons-nous aussi que la véritable source de transformation de notre monde autour de nous, c'est notre décision de suivre Christ dans ce chemin qu'il a conduit jusqu'à la croix. Alors, on ne va pas recevoir son coup de fouet comme les esclaves auxquels Pierre s'adresse. Mais dans notre vie quotidienne, on est toujours victime d'injustices plus ou moins grandes. Et dans ces situations d'injustice, c'est à nous de décider comment nous voulons y répondre. Est-ce qu'on veut y répondre par le mal, par le mépris, par la vengeance, froide et calculée? Ou bien est-ce qu'on veut choisir le chemin de Christ et répondre en faisant le bien? Je pense que si nous choisissons ce deuxième chemin, c'est pas dire oui à l'abus, c'est pas excuser le mal. Et ce n'est pas le laisser prendre le pouvoir sur nous. Mais par notre manière de répondre à une situation d'injustice en faisant le bien, nous pointons du doigt vers la vie dont Dieu nous a fait don. Cette vie qui nous a libérés de manière tellement profonde que nous sommes rendus capables de rayonner son amour, y compris dans les situations d'injustice. Alors, c'est pas facile, c'est dur. Moi, dans ma vie, j'ai tout au plus eu des secousses sismiques de 4 à 4,5. Je suis loin du 9,2. Mais même dans ces situations-là, où il y a la maison qui se met à trembler, les meubles restent en place, il ne se passe pas grand-chose, ben dans ces situations-là, je trouve que c'est dur. Et c'est un combat pour moi de venir dans la prière, de m'entourer aussi de frères et sœurs. Souvent, j'ai besoin d'être entourée dans ces moments et de dire, mais je ne veux pas me laisser enfermer par ce mal qui m'a été fait. Mais je ne veux pas non plus me laisser enfermer par le mal que moi je pourrais faire en réponse à ce mal. Et ce qui a été fait, ce n'était pas juste. Et toi, tu sais, Dieu, que ce n'était pas juste. Mais je sais aussi que de ta croix, le plus grand mal qui ait jamais été commis, de ta croix est sorti le plus grand bien. Et c'est dans cette confiance que moi aussi, je peux répondre au mal par le bien et que du bien va pouvoir sortir de cette situation, que je veux aller de l'avant. Et puis des fois, je me lève le lendemain matin et puis j'ai exactement le même combat à recommencer. Et puis des fois, ça peut durer des jours, beaucoup de temps. Mais ce qui est fou, c'est que quand je viens devant mon Père et quand je mène ce combat dans la prière, alors la situation d'injustice, au début, elle est souvent toujours là. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle ne m'enferme plus. Et souvent, je suis impressionnée, tout d'un coup, je suis toute chamboulée. Je suis là, mais je ne vais pas y arriver. Et puis tout d'un coup, il y a une paix qui descend. La paix de Dieu. Une paix qui n'a rien à voir avec la circonstance. Et aussi dans ces moments-là, ce que j'ai souvent réalisé, c'est que j'avais l'impression d'avoir grandi dans ce cœur de Christ pour le monde. Et puis que c'était peut-être ça, la grâce dont Pierre nous parle quand il dit « C'est une grâce pour vous de souffrir injustement en répondant par le bien. » J'aimerais conclure. Vivre et rayonner l'amour de Christ dans notre monde où le mal a toujours sa place, c'est parfois accepter des sacrées secousses dans nos vies, dans notre manière de gérer l'injustice, avec les armes de Christ et non les nôtres. Dans les situations de pression extrême, d'injustice extrême, vivre et rayonner l'amour de Christ, ça peut que se faire de manière radicale. Il n'y a pas d'autre voie. Vivre et rayonner l'amour de Christ, c'est retrouver son cœur pour ce monde. Un cœur tellement rempli d'amour qu'il a donné sa vie pour le sauver. Et les projets dans tout ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'en fasse. Si on commence d'abord par avoir ce cœur-là, alors les projets, ils vont suivre. Il n'y aura pas de problème. J'ai terminé. Et puis j'aimerais juste vous donner un temps de silence pour méditer cette dernière diapositive. Vivre et rayonner l'amour de Christ, c'est retrouver son cœur pour ce monde.